Roland Barthes.
Il y a certainement deux grands types de sujets amoureux. Il y a, disons, le sujet amoureux dont la dominante est la jalousie. L'amoureux paranoïaque, disons que de Racine à Proust, le sujet amoureux qui est mis dans nos romans français, c'est très facilement le jaloux.
Ça peut pas faire de mal.
Mais en face, il y a un autre type qui est le sujet amoureux qui est certainement psychiquement très proche de la mère, qui reste dans la relation à la mère. Et de cela, alors, ce qui est le meilleur exemple littéraire, c'est certainement l'amour romantique allemand.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Qu'est-ce donc que l'amour ? J'ai beau avoir lu tout ce que des prétendus sages ont écrit sur sa nature, j'ai beau y philosopher dessus en vieillissant, que je n'accorderai jamais qu'il soit ni bagatelle, ni vanité. C'est une espèce de folie sur laquelle la philosophie n'a aucun pouvoir, une maladie à laquelle l'homme est sujet à tout âge et qui est incurable si elle frappe dans la vieillesse. Amour indéfinissable, Dieu de la nature. Amertume dont rien n'est plus doux, douceur dont rien n'est plus amer, monstre divin qu'on ne peut définir que par des paradoxes. Extrait d'Histoire de ma vie, mémoire de Giacomo Casanova. Qu'est-ce que l'amour ? Vaste question qui a occupé nombre d'écrivains. Aujourd'hui, revenons sur quelques-unes des plus belles pages littéraires qui ont pour thème le sentiment amoureux. À travers des extraits de romans, mais aussi des poèmes, parcourons les moments clés d'une relation, de la rencontre à la rupture, en passant par la déclaration, ou encore le mariage. Et pour cela, j'ai demandé à une amie de longue date, une collègue, une brillante sociétaire de la Comédie française, mais surtout une très belle femme, Elsa Le Poivre. Bonjour Elsa.
Bonjour Guillaume.
Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Eh bien, commençons par vous, commençons par les interrogations d'une adolescente sur l'amour. Vous vous en souvenez, Elsa ? Donc, paru en 1958, ce récit autobiographique, Les mémoires d'une jeune fille rangée, retrace les 20 premières années de Simone de Beauvoir jusqu'à sa rencontre avec l'homme de sa vie, Jean-Paul Sartre. Et justement, dans l'extrait suivant, il est question de lui. La romancière, encore adolescente, se demande à quoi pourrait bien ressembler le compagnon de ses rêves.
L'été de mes 15 ans, à la fin de l'année scolaire, j'allais deux ou trois fois canoter au bois avec Zaza et d'autres camarades. Je remarquais dans une allée un jeune couple qui marchait devant moi. Le garçon appuyait légèrement sa main sur l'épaule de la femme. Ému, soudain, je me dis qu'il devait être doux d'avancer à travers la vie avec sur son épaule une main si familière qu'à peine en sentait-on le poids, si présente que la solitude fut à jamais conjurée. Deux êtres unis, je rêvais sur ces mots. Ni ma sœur trop proche, ni Zaza trop lointaine, ne m'en avaient fait pressentir le vrai sens. Il m'arriva souvent par la suite, quand je lisais dans le bureau, de relever la tête et de me demander « Rencontrerai-je un homme qui sera fait pour moi ?» Je ne prêtais à mon futur mari aucun trait défini. En revanche, je me faisais de nos rapports une idée précise. J'éprouverais pour lui une admiration passionnée. En ce domaine, comme dans tous les autres, j'avais soif de nécessité. Il faudrait que l'élu s'imposât à moi, comme s'était imposé Zaza par une sorte d'évidence. Sinon, je me demanderais pourquoi lui et pas un autre. Ce doute était incompatible avec le véritable amour. J'aimerais, le jour où un homme me subjuguerait par son intelligence, sa culture, son autorité. Sur ce point, Zaza n'était pas de mon avis. Pour elle aussi, l'amour impliquait l'estime et l'entente. Mais si un homme a de la sensibilité et de l'imagination, si c'est un artiste, un poète, peu importe, disait-elle, qu'il soit peu instruit et même médiocrement intelligent, alors on ne peut pas tout se dire, objectai-je. Un peintre, un musicien ne m'aurait pas comprise tout entière et il me serait demeuré en partie opaque. Moi, je voulais qu'entre mari et femme, tout fût mis en commun. Chacun devait remplir en face de l'autre ce rôle d'exact témoin que jadis j'avais attribué à Dieu. Cela excluait qu'on aimât quelqu'un de différent. Je ne me marierais que si je rencontrais, plus accompli que moi, mon pareil, mon double. Pourquoi réclamais-je qu'il me fût supérieur ? Je tenais à mon indépendance. J'exercerais un métier, j'écrirais, j'aurais une vie personnelle. Je ne m'envisageais jamais comme la compagne d'un homme. Nous serions deux compagnons. Mais si dans l'absolu un homme ne valait pas plus que moi, je jugerais que, relativement, il valait moins. Pour le reconnaître comme mon égal, il fallait qu'il me dépassât. L'élu, je lui garantissais dès le départ des perfections qui pour moi n'existaient encore qu'en espoir. Il était d'emblée le modèle de ce que je voulais devenir, donc il l'emportait sur moi. Je prenais soin d'ailleurs de ne pas mettre trop de distance entre nous. Je n'aurais pas accepté que sa pensée, ses travaux me fussent impénétrables. Alors j'aurais souffert de mes insuffisances. Il fallait que l'amour me justifiât sans me borner. L'image que j'évoquais, c'était celle d'une escalade où mon partenaire, un peu plus agile et robuste que moi, m'aiderait à me hisser de palier en palier. J'étais plus âpre que généreuse. Je désirais recevoir et non donner. S'il m'avait fallu remorquer un traînard, je me serais consumée d'impatience. En ce cas, le célibat était bien préférable au mariage. La vie commune devait favoriser et non contrecarrer mon entreprise fondamentale, m'approprier le monde. Ni inférieur, ni différent, ni outrageusement supérieur, l'homme prédestiné me garantirait mon existence sans lui enlever sa souveraineté.
Simone de Beauvoir.
Je voyais les autres femmes et je voyais tous les couples que je connaissais. Je voyais que le rôle important, positif joué par les hommes et que la femme était vraiment dans leur ombre. Et puis j'ai commencé alors à lire beaucoup de choses que les hommes avaient écrites sur les femmes. Et j'ai vu qu'elles étaient toujours traitées d'être relatives, d'être secondaires, etc., etc. Et alors là, en effet, j'ai vraiment pris conscience de la condition féminine.
Une autre rencontre décisive est décrite par Thomas Mann dans son célèbre roman « La mort à Venise ». Dans la mythique cité des Doges, un écrivain en villégiature s'éprend d'un jeune adolescent polonais prénommé Tadzio. Il l'aperçoit tous les jours à l'hôtel, dans les rues de Venise ou encore à la plage. Voici un extrait de ce récit passionné, certainement l'un des plus beaux du romancier allemand Nobel de littérature en 1929. Il se levait de grand matin comme il faisait à l'occasion quand le besoin de travailler le talonnait. Et il était des premiers sur la plage quand le soleil était encore clément et que la mer éblouissante de blancheur était plongée dans sa rêverie matinale. Alors, 3 ou 4 heures étaient les siennes, durant lesquelles il avait le bonheur de voir Tadzio. Il le voyait venir de la gauche, le long du rivage. Il le voyait surgir d'entre les cabines derrière lui, ou s'apercevait parfois tout à coup qu'il avait manqué son arrivée et que l'adolescent était déjà là. Et que déjà, dans le costume de bain bleu et blanc qui était son unique vêtement de plage, il avait repris ses occupations coutumières au soleil et dans le sable, et cette vie d'aimable futilité et d'agitation oisive. Bientôt le contemplateur connut chaque ligne et chaque attitude de ce corps présenté si librement, avec un relief si puissant. Il saluait avec une joie toujours renouvelée chacune des perfections qui lui étaient déjà familières et n'en finissait pas d'admirer avec une tendre sensualité. Sa chevelure ambrée glissait en boucles caressantes sur ses tempes et le long de sa nuque. Le soleil faisait briller le duvet entre ses omoplates. Le dessin délicat des côtes, la symétrie de la poitrine apparaissait à travers l'enveloppe collée au thorax. Les aisselles étaient encore lisses comme celles d'une statue. Le creux des jarrets était luisant et traversé d'un réseau de veines bleuâtres auprès desquelles le reste du corps semblait fait d'une matière plus lumineuse encore. C'était l'ivresse. Et l'artiste vieillissant l'accueillit sans hésiter, avidement. Son imagination prit feu. Le tréfonds de sa culture bouillonna, sa mémoire fit surgir des pensées très anciennes. Il savait, Il sentait que la nature frissonne de délices quand l'esprit s'incline en vassal devant la beauté. Il fut pris soudain du désir d'écrire. Son désir tendait à travailler en présence de Tadzio, à prendre en écrivant l'enfant lui-même comme modèle, à laisser son style suivre les lignes de ce corps qui lui semblait divin. Il est bon assurément que le monde ne connaisse que le chef-d'œuvre, et non ses origines, non les conditions et les circonstances de sa genèse. Heures étranges, étranges et fécond accouplement de l'esprit avec un corps. Lorsque Aschenbach serra son papier et partit de la plage, il se sentit épuisé, brisé, et il lui semblait entendre l'accusation de sa conscience comme après une débauche.
Le sujet amoureux, au fond, ne peut donner lui-même absolument aucun sens. Il ne peut pas donner le sens d'un destin à ce qu'il vit.
Roland Barthes.
Bien sûr, une fois que l'épisode amoureux est fini, il est très possible de le construire rétroactivement comme un destin. Mais quand on est dedans, on est plongé dans une sorte de désordre profond, de ces sortes de bouffées d'épisodes de langage qui vous passent dans la tête, et par là même, le roman est une sorte de construction a posteriori qui falsifie cette sorte de désordre extrêmement vif, qui fait d'ailleurs que couramment, enfin, le sentiment populaire depuis très longtemps, parle de l'amoureux comme d'un fou.
Après la rencontre vient souvent le rendez-vous. Voici comment l'essayiste Roland Barthes l'imagine dans son célèbre « Fragment d'un discours amoureux ». L'auteur réfléchit ici au langage de l'amour. À travers différentes notions et sous la forme d'un dictionnaire, il étudie les différents comportements du sujet amoureux. En voici un extrait. Le chapitre s'intitule « L'attente ».
Tumulte d'angoisse suscité par l'attente de l'être aimé au gré de menus retards, rendez-vous, téléphone, lettre, retour. Il y a une scénographie de l'attente. Je l'organise, je la manipule, je découpe un morceau de temps où je vais mimer la perte de l'objet aimé et provoquer tous les effets d'un petit deuil. Cela se joue donc comme une pièce de théâtre. Le décor représente l'intérieur d'un café. Nous avons rendez-vous, j'attends. Dans le prologue, seul acteur de la pièce et pour cause, je constate, j'enregistre le retard de l'autre. Ce retard n'est encore qu'une entité mathématique, computable. Je regarde ma montre plusieurs fois. Le prologue finit sur un coup de tête. Je décide de me faire de la bile. Je déclenche l'angoisse d'attente. L'acte 1 commence alors. Il est occupé par des supputations. S'il y avait un malentendu sur l'heure, sur le lieu. J'essaie de me remémorer le moment où le rendez-vous a été pris, les précisions qui ont été données. Que faire ? Angoisse de conduite. Changer de café ? Téléphoner ? Mais si l'autre arrive pendant ses absences ? Ne me voyant pas, il risque de repartir. L'acte 2 est celui de la colère. J'adresse des reproches violents à l'absent. Tout de même, il, elle, aurait bien pu... Il, elle, c'est bien. Ah, si elle, il, pouvait être là pour que je puisse lui reprocher de n'être pas là. Dans l'acte 3, j'atteins. J'obtiens. L'angoisse toute pure, celle de l'abandon. Je viens de passer en une seconde de l'absence à la mort. L'autre est comme un mort. Explosion de deuil, je suis intérieurement livide. Telle est la pièce. Elle peut être écourtée par l'arrivée de l'autre. S'il arrive en un, l'accueil est calme. S'il arrive en deux, il y a scène. S'il arrive en trois, c'est la reconnaissance, l'action de grâce. Je respire largement, tel Péléas sortant du souterrain et retrouvant la vie, l'odeur des roses. L'angoisse d'attente n'est pas continuellement violente. Elle a ses moments mornes. J'attends et tout l'entour de mon attente est frappé d'irréalité. Dans ce café, je regarde les autres qui entrent, papotent, plaisantent, lisent tranquillement. Eux, ils n'attendent pas. Suis-je amoureux ? Oui, parce que j'attends. L'autre, lui, n'attend jamais. Parfois, je veux jouer à celui qui n'attend pas. J'essaie de m'occuper ailleurs, d'arriver en retard, mais à ce jeu, je perds toujours. Quoi que je fasse, je me retrouve désœuvrée, exact, voire en avance. L'identité fatale de l'amoureux n'est rien d'autre que « je suis celui qui attend ».
L'histoire d'Adèle H. de François Truffaut.
Albert, tu n'as pas oublié?
Eh bien, c'est vrai, j'ai pensé vous épouser. Maintenant, je n'y pense plus. Quel mal y a-t-il?
Quel mal y a-t-il? Mais Albert, je ne t'ai rien demandé. C'est toi qui es venu me chercher. C'est toi qui as voulu de moi. C'est toi qui profitais des soirées de table tournante pour me toucher le bras. C'est toi qui me caressais dans les corridors. Je me suis donnée à toi. Il faut me garder. Vous entendez? Il faut me garder.
Mais qu'est-ce que vous croyez? J'ai connu des femmes avant vous, j'en ai connu après vous et j'en connaîtrai encore.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. La vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Ça peut pas faire de mal.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
À quoi reconnaît-on que l'on est amoureux? C'est très simple. On est amoureux quand on commence à agir contre son intérêt. François Truffaut.
L'homme veut être le premier amour de la femme, alors que la femme veut être le dernier amour de l'homme. Oscar Wilde.
Qu'aime l'amour? L'infinité. Que craint l'amour? Des bornes. Kierkegaard. Un autre exemple de premier rendez-vous, cette fois-ci plus concluant, avec un extrait du célèbre roman L'écume des jours. Un récit surréaliste sur la quête de l'être aimé par Boris Vian. L'un des personnages principaux s'appelle Colin. Il rencontre Chloé lors d'une fête. et décide de l'inviter à se promener un après-midi. Extrait du chapitre 13. Colin, debout au coin de la place, attendait Chloé. La place était ronde. Il y avait une église, des pigeons, un square, des bancs. Et devant, des autos et des autobus sur du macadam. Le soleil aussi attendait Chloé. Mais lui pouvait s'amuser à faire des ombres, à faire germer des graines de haricots sauvages dans les interstices adéquates, à pousser des volets et rendre honteux un réverbère allumé pour raison d'inconscience de la part d'un CPDiste. Colin roulait le bord de ses gants et préparait sa première phrase. Celle-ci se modifiait de plus en plus rapidement à mesure qu'approchait l'heure. Il ne savait pas que faire avec Chloé. Peut-être l'emmener dans un salon de thé ? Mais l'atmosphère en est d'ordinaire plutôt déprimante, et les dames goinfres de 40 ans qui mangent 7 gâteaux à la crème en détachant l'auriculaire, il n'aimait pas ça. Pas au cinéma, elle n'acceptera pas. Pas au députodrome, elle aura peur. Pas à l'hôpital Saint-Louis, c'est défendu. Pas au musée du Louvre, il y a des satyres derrière les chérubins assyriens. Pas à la gare Saint-Lazare, il n'y a plus que des brouettes et pas un seul train.
Bonjour.
Chloé était arrivée par derrière. Il retira vite son gant, s'empêtra dedans, se donna un grand coup de poing dans le nez, fit houille et lui serra la main. Elle riait.
Vous avez l'air embarrassée.
Elle prit le bras de Colin.
Offrez-moi le bras. Vous n'êtes pas dégourdi aujourd'hui.
Ça allait mieux la dernière fois, avoua Colin. Elle rit encore et le regarda et rit de nouveau, encore mieux. Vous vous moquez de moi ? Dit Colin, piteux. C'est pas charitable.
Vous êtes content de me voir ?
Dit Chloé. Oui, dit Colin. Il marchait, suivant le premier trottoir venu. Un petit nuage rose descendait de l'air et s'approcha d'eux. J'y vais ? Proposa le nuage. Vas-y, dit Colin. Et le nuage les enveloppa. À l'intérieur, il faisait chaud et ça sentait le sucre à la cannelle. Que voulez-vous faire ? Dit Colin.
Juste se promener, ça vous ennuie ? Et on peut regarder les vitrines. Regardez celle-ci, c'est intéressant.
Dans la vitrine, une jolie femme reposait sur un matelas à ressort. Sa poitrine était nue, mais un appareil lui brossait les seins vers le haut avec de longues brosses soyeuses en poils blancs et fins. La pancarte disait « Économisez vos chaussures avec l'antipode du révérend Charles ».
C'est une bonne idée,
dit Chloé. C'est bien plus agréable avec la main, dit Colin. Chloé rougit.
Ne dites pas de choses comme ça. Je n'aime pas les garçons qui disent des horreurs devant les jeunes filles.
« Je suis désolé, » dit Colin. « Je ne voulais pas... » Il avait l'air si désolé qu'elle sourit et le secoua un petit peu pour montrer qu'elle n'était pas fâchée.
« Et ça ?»
dit Chloé. Dans la vitrine, c'était un ventre, monté sur des roues caoutchoutées, bien rond et rebondi. Sur l'annonce, on pouvait lire « Le vôtre ne fera pas de plis non plus si vous le repassez avec le fer électrique. »«
Allons-nous-en, »
dit Chloé.
Je ne veux plus voir de vitrine, ça me déplaît.
Qu'est-ce qu'on fait ? Dit Colin. On va prendre le thé quelque part ?
Oh, ce n'est pas l'heure. Et puis je n'aime pas beaucoup ça.
Colin respira, soulagé, et ses bretelles craquèrent.
Qu'est-ce qui a fait ce bruit ?
J'ai marché sur une branche morte, expliqua Colin en rougissant.
Si nous allions nous promener au bois ?
Colin la regarda ravi. C'est une très bonne idée, il n'y aura personne. Elle rougit.
Ce n'est pas pour ça. D'ailleurs,
ajouta-t-elle pour se venger,
nous ne quitterons pas les grandes allées. Dans les petites, on se mouille les pieds.
Il serra un peu le bras qu'il sentait sous le sien tout en luttant avec les pans de son pardessus.
Dépêchons-nous de dépasser les pigeons. Les moineaux font moins de vent,
dit Chloé en se serrant contre Colin. Ils se hâtèrent et sortirent de la zone dangereuse. Ils trouvèrent un banc qui paraissait un peu humide et vert foncé. Vous n'avez pas froid ? Demanda Colin.
« Non, »
dit Chloé.
« Mais je veux bien me rapprocher tout de même. »«
Oh, » dit Colin. Et il rougit. Ça lui fit une drôle de sensation. Il mit son bras autour de la taille de Chloé. Sa toque était inclinée de l'autre côté et il avait tout près des lèvres un flot de cheveux lustrés. « J'aime être avec vous, » dit-il. Chloé ne dit rien. Elle respira un peu plus vite et se rapprocha imperceptiblement. Colin lui parlait presque à l'oreille. « Vous ne vous ennuyez pas ?» demanda-t-il. Elle fit non de la tête, et Colin put se rapprocher encore à la faveur du mouvement. « Je... » dit-il, tout contre son oreille. Et à ce moment, comme par erreur, elle tourna la tête et Colin lui embrassait les lèvres. Ça ne dura pas très longtemps, mais la fois d'après, c'était beaucoup mieux. Et maintenant, la déclaration à l'être aimé, selon Apollinaire, dans « Poème à Lou ». L'auteur d'Alcool aima passionnément Louise de Coligny-Châtillon, dite « Lou », à qui il adressa de nombreuses lettres et poèmes alors qu'il était au front. Voici l'un des textes qu'il lui a envoyés. Il s'agit d'une vraie déclaration d'amour.
Mon très cher petit loup, je t'aime. Ma chère petite étoile palpitante, je t'aime. Corps délicieusement élastique, je t'aime. Vulve qui serre comme un casse-noisette, je t'aime. Sein gauche si rose et si insolent, je t'aime. Sein droit si tendrement rosé, je t'aime. Mamelon droit couleur de champagne, non champanisé, je t'aime. Mamelon gauche semblable à une bosse du front d'un petit veau qui vient de naître, je t'aime. Nymphe hypertrophiée par tes attouchements fréquents, je vous aime. Fesses exquisément agiles qui se rejettent bien en arrière, je vous aime. Nombril semblable à une lune creuse et sombre, je t'aime. Toison clair comme une forêt en hiver, je t'aime. Aisselle duvetée comme un cygne naissant, je vous aime. Chute des épaules adorablement pures, je t'aime. Cuisse au galbe aussi esthétique qu'une colonne de temple antique, je t'aime. Oreilles ourlées comme de petits bijoux mexicains, je vous aime. Chevelure trempée dans le sang des amours, je t'aime. Pieds savants, pieds qui se raidissent, je vous aime. Reins chevaucheurs, reins puissants, je vous aime. Taille qui n'a jamais connu le corset, taille souple, je t'aime. Dos merveilleusement fait et qui s'est courbé pour moi, je t'aime. Bouche, ô mes délices, ô mon nectar, je t'aime. Regard unique, regard étoile, je t'aime. Main dont j'adore les mouvements, je vous aime. Nez singulièrement aristocratique, je t'aime. Démarche onduleuse et dansante, je t'aime. Ô petit loup, je t'aime, je t'aime. Je t'aime et quand je le rajouterai encore, ce serait toujours le même mot. C'est celui-là même, je t'aime. Tout cela, si tu veux bien, naturellement, car je ne veux te forcer en rien, pas même à te laisser aimer, tu sais. Petit loup, adieu donc, et à demain, si j'ai le temps d'écrire. Mais jusqu'à nouvelle décision de ta part, t'enverrai chaque jour quelque chose.
Et maintenant, passons à la demande en mariage, avec un extrait d'Anna Karénine de Léon Tolstoï. Ce roman est celui de deux histoires d'amour. L'une, adultère, entre Anna Karénine et Alexis Vronsky, et l'autre, plus traditionnelle, mais tout aussi intense, entre Lévin et la jeune Kitty. Dans l'extrait que nous allons lire, il est justement question d'eux. Lévin, surnom aussi de Tolstoï, propriétaire terrien vivant à la campagne, a déclaré son amour à Kitty lors d'un bal, mais celle-ci l'a repoussé car elle était justement éprise de Vronsky. Plusieurs mois après ce refus, ils se retrouvent tous deux lors d'une soirée. Extrait du chapitre 13 de la quatrième partie. Quand on quitta la table, Lévin, craignant de déplaire à Kitty par une assiduité trop marquée, résista à la tentation de la suivre au salon. Il resta avec les hommes et prit part à la conversation générale. Mais sans voir la jeune fille, il devinait chacun de ses gestes, de ses regards, et jusqu'à la place qu'elle occupait. Une seule personne comptait pour lui dans le monde. Cette personne, après avoir séjourné au salon, s'était approchée de la porte. Il sentit un regard et un sourire fixés sur lui et fut contraint de se retourner. Elle était là, en compagnie du jeune Cherbatsky, et elle le regardait. « Je pensais que vous alliez vous mettre au piano, » dit-il en allant à elle. « Voilà ce qui me manque à la campagne, la musique. »«
Non, nous venions tout simplement vous chercher, » répondit-elle en le récompensant d'un sourire. « Quel plaisir y a-t-il à discuter ? On ne convainc jamais personne. »
Tcherbatsky les ayant quittés, elle s'assit à une table de jeu et se mit à tracer à la craie des cercles sur le drap vert. Un silence tomba. Les yeux de Kitty brillaient d'un doux éclat. Une rafale de bonheur emportait Lévin.
« Ah, mon Dieu, j'ai couvert toute la table de mes griffonnages, » dit-elle en déposant la craie et en faisant mine de se lever.
« Comment ferais-je pour rester sans elle ?» pensa Lévin avec terreur. « Attendez, dit-il en s'asseyant à son tour. Il y a longtemps que je voulais vous demander une certaine chose. Il posa sur elle un regard tendre, quelque peu craintif.
Demandez.
Voici, dit-il en traçant à la craie les lettres Q, V, M, A, R, C, E, I, E, I, A, O, T, qui étaient les premières des mots quand vous m'avez répondu « c'est impossible ». Était-ce impossible alors ou toujours ? Il était peu vraisemblable que Kitty pût comprendre cette question compliquée. Néanmoins, il la regarda de l'air d'un homme dont la vie dépendait de l'explication de cette phrase. Elle appuya le front sur sa main et se mit à déchiffrer avec beaucoup d'attention, interrogeant parfois les vignes des yeux.
« J'ai compris, » dit-elle enfin en rougissant.
« Que veut dire cette lettre ?» lui demanda-t-il en indiquant le T.
« Toujours, mais cela n'est pas vrai. »
Il effaça brusquement ce qu'il avait écrit et lui tendit la craie. Elle écrivit A, J, N, B, R, D. Soudain, Lévin rayonna de joie. Il avait compris la réplique. Alors je ne pouvais répondre différemment. Il l'interrogea d'une œillade craintive. Seulement alors ?
Oui, répondit le sourire de la jeune fille.
Et maintenant ? Demanda-t-il.
Lisez, je vais vous dire ce que je souhaite de toute mon âme.
Elle traça les premières lettres des mots que vous puissiez oublier et pardonner. De ses doigts tremblants, il saisit le bâton de craie, le brisa dans son trouble et répondit de la même façon : Je n'ai rien à oublier ni à pardonner. Car je n'ai jamais cessé de vous aimer. Kitty le regarda et son sourire se figea.
J'ai compris, murmura-t-elle.
Il s'assit et écrivit une longue phrase. Elle la comprit sans hésitation et lui répondit par une autre, dont il fut longtemps à saisir le sens, le bonheur lui enlevant l'usage de ses facultés. Mais dans les yeux ivres de joie de Kitty, il lut ce qu'il désirait savoir. Il écrivit encore trois lettres, mais la jeune fille lui arrachant la craie termina elle-même la phrase et répondit par un « oui » en toutes lettres. Elle l'aimait, elle préviendrait ses parents, il viendrait faire sa demande le lendemain.
Je crois que... Le principe de l'amour, c'est, enfin, l'idée de l'amour, c'est que n'importe qui, du banquier cynique à
Françoise Sagan,
au tendre balayeur, n'importe qui a envie d'être entendu, qu'on l'écoute. Et tout le monde cherche une oreille. Et je crois que c'est plus que les sexualités, plus, c'est avant tout l'idée que quelqu'un s'intéresse à votre vie et qu'on pourra lui raconter. Et que votre vie qui est plate, et si on la prend au jour le jour, qui est quotidienne, devient pour quelqu'un une anecdote, quelque chose d'intéressant. Et je crois que ça explique des amours qui paraissent bizarres, où un homme intelligent aime une femme bête, que cette femme bête lui offre une possibilité de se raconter.
Puisqu'il s'agit d'amour, il s'agit aussi parfois de rupture. Elle ne manque pas en littérature. En voici une, extrait du roman « Le lit des fées » de Françoise Sagan. 5 ans plus tôt, Béatrice, brillante comédienne de boulevard, avait aimé Édouard, pauvre et inconnu, avant de l'écarter de sa vie pour des liaisons plus flatteuses. 5 ans plus tard, il est consacré par Paris comme le meilleur auteur dramatique de sa génération. Béatrice cède une fois de plus à son amour romantique et désintéressé, mais avec une nonchalance et une distraction qui désespère son amant. Édouard, parti la rejoindre à Lille, où elle est en tournée, se réveille et découvre à ses côtés une surprise désagréable.
À son réveil, le lendemain matin, Édouard était seul. Seul avec une lettre dramatiquement épinglée sur l'oreiller voisin. Avant même de l'ouvrir, au sortir des brumes douloureuses et fragiles de son sommeil, Édouard sentit son cœur cesser de battre, son sang se diluer, et il hésita une minute avant de décacheter l'enveloppe. « Mon chéri, disait Béatrice. Je te quitte pour toi et pour moi. Nous ne devrions pas nous voir pendant cette tournée car ta présence m'empêche de me concentrer et je sais que pour toi ce rôle de suivant n'est pas bon. Tu es un écrivain. Le mot « écrivain » était souligné. Et je ne veux pas être celle qui t'empêche d'écrire. Cette séparation me sera aussi pénible qu'à toi. Je t'embrasse, Béatrice. Il y avait un post-scriptum rajouté d'une main plus pressée et moins lisible. N'oublie pas que je suis sotte, que je n'ai pas ta valeur et que, même sans le faire exprès, je ne peux que te faire du mal. Le post-scriptum était le plus important, mais c'est à peine si, dans son abandon, son chagrin violent comme celui d'un enfant, Édouard y fit attention. Il ne songea qu'à fuir cette chambre et une heure plus tard, il refaisait en sens inverse la route triomphale de l'avant-veille. Il conduisait mal, nerveusement, remâchant sa défaite. Car c'était bien une défaite. Il était parti rejoindre sa maîtresse, passer une semaine avec elle et au bout de 2 jours, elle l'avait abandonné. Et il lui semblait que les panneaux publicitaires tout au long de l'autoroute lui aboyaient « défaite, défaite » à bout portant. Les bières München lui signifiaient qu'il n'en boirait jamais avec Béatrice. La TWA que ses beaux avions ne les emporteraient jamais ensemble sous les cieux tropicaux. À un moment, il faillit emboutir un camion et grelottant de terreur rétrospective et de désarroi, il se réfugia dans un café, enfin plutôt dans un de ces sinistres couloirs bondés qui recueillent à présent les rescapés de l'autoroute. Il aurait voulu demander un café chaud à une servante au grand cœur, mais il dut, à la place, changer un billet de 10 francs contre des pièces puis introduire une de ses pièces dans un engin nickelé et sale à la fois, qui lui rendit en échange un café sans goût dans un gobelet de carton. Décidément, ce monde nouveau n'était pas fait pour lui. Il ouvrit sa valise et retrouva une petite boîte de pilules psychotoniques dont il faisait usage de temps en temps. Mais cette fois-ci, ce ne fut pas sans remords. Édouard se fût volontiers piqué à l'héroïne si cela lui avait permis d'écrire 10 pages éblouissantes, mais l'idée de stimuler ou d'étouffer chimiquement ses humeurs l'humiliait profondément. En tout cas, cela lui permit de rester attentif jusqu'à Paris. En arrivant, il se rendit machinalement devant l'appartement de Béatrice, devant sa maison, là, leur maison. Et c'est en la regardant, c'est là que vraiment le désespoir le prit. Il était garé devant cette porte close, il n'avait pas le droit de pénétrer jusqu'à la chambre bleue, il en était peut-être exclu pour toujours. Il resta là une heure, inerte, la tête contre la vitre. Regardant sans les voir des passants lointains, pressés, qui avaient l'air tristes.
Qu'est-ce que tu veux? Ça va durer longtemps, cette plaisanterie? Alors tu te décides, oui ou non? Alors tu vas me faire un plaisir. Tu vas t'en aller gentiment, sans histoire. Moi, les discussions, les drames, j'en ai par-dessus la tête, tu comprends? C'est fini! Fini!
Oui, c'est fini. Pour de bon. T'inquiète pas, je t'embêterai plus. J'ai trop souffert. Je suis à bout. Je vais te laisser tranquille. Pour toujours!
Ah oui, le suicide. Ça, je sais, tout Paris est au courant. Seulement avec moi, ça ne prend pas, tu comprends?
Pauvre type, c'est pas de ma faute si je t'aime.
Non, 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 tu mens. C'est un nouveau truc que tu as trouvé pour m'empoisonner la vie. Alors tu vas me foutre la paix, hein? Et tout de suite, va-t'en que je te sors.
Il y a 2 sortes d'amour. L'amour insatisfait qui vous rend odieux et l'amour satisfait qui vous rend idiot. Colette.
L'amour est une étoffe tissée par la nature et brodée par l'imagination. Voltaire.
Lettre de Musset à Georges Sand. Mon cher Georges, j'ai quelque chose de bête et de ridicule à vous dire. Je suis amoureux de vous.
Love's in the air, everywhere I look around. C'est chanté par John Paul Young. Love's in the air, everywhere I look around. Il chante mieux que moi. Allez.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if
rising of the sun. Love is in the air when the day is nearly done.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Et pour conclure, l'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Frédéric Moreau a 18 ans et doit se résigner à quitter Paris. Sur le bateau qui le mène à sa ville natale de Nogent-sur-Marne, il rencontre Madame Arnoux, épouse d'un riche marchand d'art. Et c'est le coup de foudre. Mais malgré leur attirance réciproque, jamais ils ne céderont à cet amour naissant. Plusieurs années se sont écoulées pendant lesquelles les deux personnages ne se sont pas vus. Enfin, ils se retrouvent et évoquent le passé, leur passion inaboutie, leur désillusion. Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues. Il revint. Il fréquenta le monde. Et il eut d'autres amours encore. Mais le souvenir continuel du premier les lui rendait insipides. Et puis la véhémence du désir, la fleur même de la sensation, était perdue. Ses ambitions d'esprit avaient également diminué. Des années passèrent et il supportait le désœuvrement de son intelligence et l'inertie de son cœur. Vers la fin mars de 1867, à la nuit tombante, comme il était seul dans son cabinet, une femme entra. Madame Arnoux.
Frédéric.
Elle le saisit par les mains, l'attira doucement vers la fenêtre et elle le considérait tout en répétant
« C'est lui, c'est donc lui. »
Dans la pénombre du crépuscule, il n'apercevait que ses yeux sous la voilette de dentelle noire qui masquait sa figure. Elle s'assit, tous deux restèrent sans pouvoir parler, se souriant l'un à l'autre.
« Excusez-moi de n'être pas venu plus tôt, »
dit-elle, et désignant le petit portefeuille grenat couvert de palmes d'or.
« Je l'ai brodé à votre intention, tout exprès. »
Frédéric la remercia du cadeau, tout en la blâmant de s'être dérangée.
« Non. » Ce n'est pas pour cela que je suis venue. Je tenais à cette visite, puis je m'en retournerai, là-bas.
Et elle lui parla de l'endroit qu'elle habitait, puis à la voix qu'elle désirait faire un tour à son bras dans les rues. Ils sortirent. La lueur des boutiques éclairait par intervalles son profil pâle, puis l'ombre l'enveloppait de nouveau. Et au milieu des voitures, de la foule et du bruit, ils allaient sans se distraire d'eux-mêmes, sans rien entendre, comme ceux qui marchent ensemble dans la campagne sur un lit de feuilles mortes. Ils se racontèrent leurs anciens jours. Elle s'étonnait de sa mémoire. Cependant, elle lui dit
« Quelquefois, vos paroles me reviennent comme un écho lointain, comme le son d'une cloche apportée par le vent. Et il me semble que vous êtes là, quand je lis des passages d'amour dans les livres. »
Elle soupira. Et après un long silence...
N'importe. Nous nous serons aimés.
Sans nous appartenir. Pourtant...
Cela vaut peut-être mieux.
Reprit-elle. Non. Non. Quel bonheur nous aurions eu.
Oh, je le crois. Avec un amour comme le vôtre.
Frédéric lui demanda comment elle l'avait découvert.
C'est un soir que vous m'avez baisé le poignet entre le gant et la manchette. Je me suis dit, mais il m'aime, il m'aime. J'avais peur de m'en assurer cependant. Votre réserve était si charmante que j'en jouissais comme d'un hommage involontaire et continu.
Quand ils rentrèrent, Madame Arnoux ôta son chapeau. La lampe, posée sur une console, éclaira ses cheveux blancs. Ce fut comme un heurt en pleine poitrine. Pour lui cacher cette déception, il se posa par terre à ses genoux et prenant ses mains se mit à lui dire des tendresses. « Votre personne, vos moindres mouvements me semblaient avoir dans le monde une importance extra-humaine. Mon cœur, comme de la poussière, se soulevait derrière vos pas. vous me faisiez l'effet d'un clair de lune par une nuit d'été. Et les délices de la chair et de l'âme étaient contenus pour moi dans votre nom que je me répétais en tâchant de le baiser sur mes lèvres. Elle acceptait avec ravissement ses adorations pour la femme qu'elle n'était plus. Frédéric, se grisant par ses paroles, arrivait à croire ce qu'il disait. Madame Arnoux, le dos tourné à la lumière, se penchait vers lui. Il sentait sur son front la caresse de son haleine, à travers ses vêtements le contact indécis de tout son corps. Leurs mains se serrèrent, la pointe de sa bottine s'avançait un peu sous sa robe, et il lui dit, presque défaillant, « La vue de votre pied me trouble. »
À mon âge, lui, Frédéric, aucune n'a jamais été aimée comme moi. Non, non, à quoi sert d'être jeune? Je m'en moque bien, je les méprise, toutes celles qui viennent ici.
« Oh, il n'en vient guère, » reprit-il complaisamment. Son visage s'épanouit et elle voulut savoir s'il se marierait. Il jura que non.
« Pourquoi ?»«
À cause de vous, » dit Frédéric en la serrant dans ses bras. Elle y restait, la taille en arrière, la bouche entrouverte, les yeux levés. Tout à coup, elle le repoussa avec un air de désespoir, et comme il la suppliait de lui répondre, elle dit en baissant la tête
« J'aurais voulu vous rendre heureux. »
Frédéric soupçonna Madame Arnoux d'être venue pour s'offrir. Et il était repris par une convoitise plus forte que jamais, furieuse, enragée. Cependant, il sentait quelque chose d'inexprimable, une répulsion et comme l'effroi d'un inceste. Une crainte l'arrêta, celle d'en avoir dégoût plus tard. Et tout à la fois par prudence et pour ne pas dégrader son idéal, il tourna sur ses talons et se mit à faire une cigarette. Elle le contemplait, tout émerveillé.
« Comme vous êtes délicat, il n'y a que vous. Il n'y a que vous. »
11 heures sonnèrent.
« Déjà ?»
dit-elle.
« Au quart, je m'en irai. »
Frédéric continua à marcher en fumant. Tous les deux ne trouvaient plus rien à se dire. Il y a un moment dans les séparations où la personne aimée n'est déjà plus avec nous. Enfin, l'aiguille ayant dépassé les 25 minutes, elle prit son chapeau par les brides, lentement.
« Adieu, mon ami, mon cher ami. Je ne vous reverrai jamais. C'était ma dernière démarche de femme. Mon âme ne vous quittera pas. Que toutes les bénédictions du ciel soient sur vous. »
Et elle le baisa au front, comme une mère. Mais elle parut chercher quelque chose et lui demanda des ciseaux. Elle défit son peigne. Tous ses cheveux blancs tombèrent. Elle s'en coupa brutalement à la racine une longue mèche.
« Gardez-les. Adieu. »
Quand elle fut sortie, Frédéric ouvrit sa fenêtre. Madame Arnoux, sur le trottoir, fit signe d'avancer à un fiacre qui passait. Elle monta dedans. La voiture disparut. Et ce fut tout.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, en partenariat avec le magazine littéraire, a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Renan Mahé. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura El Maki, Marie Berthoumieux et Valentine Chedebois.